Verte en volonté sans murmurer, ça tombe bien parce que la méditation que je vais vous apporter ce matin parlera de quelqu'un qui n'a pas obéi à la volonté de Dieu. Je ne vais pas vous parler de travail aujourd'hui, c'est repos, mais nous nous targuons entre être enfants de Dieu et nous disons souvent obéir à Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Et comme nous le chantons parfois, toujours prêt à servir Dieu. Et je me suis posé la question, est-ce vraiment toujours une réalité dans notre vie chrétienne? Avons-nous toujours le sentiment d'être à la place où Dieu nous veut vraiment, où Dieu nous veut réellement, et de faire vraiment ce que Dieu attend de nous? Ou alors, faisons-nous ce que nous avons décidé de faire parce que c'est comme ça, c'est moi qui ai décidé de le faire, et je n'ai pas envie que ce soit Dieu qui dirige vraiment ma vie à chaque instant. Notre obéissance dépend-elle des situations, frères et sœurs, ou des circonstances qui nous semblent être les meilleures ou les plus favorables, au point d'être parfois hors de la volonté de Dieu? Et notre comportement, frères et sœurs, peut avoir de graves implications, de graves répercussions sur notre vie, mais aussi sur la vie des autres, au point de même mettre la vie des autres en danger. Avons-nous déjà réfléchi à cela? Il est quelqu'un dans la parole de Dieu qui s'est mis en danger, mettant d'autres personnes en danger à cause de son comportement, à cause de sa désobéissance. Il a voulu travailler à sa façon, enfin travailler si on peut dire, parce qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui demandait de faire. Dieu lui demandait d'accomplir quelque chose et ça ne lui plaisait pas, pour toutes sortes de raisons. Et bien souvent, frères et sœurs, nous sommes un peu comme ce personnage et nous encourons des dangers et nous faisons encourir des dangers aux autres par notre désobéissance. Et je vous propose de lire, vous l'avez peut-être deviné, le chapitre 1er de Jonas. Jonas, ce prophète un peu récalcitrant, tout au long de sa vie, enfin le peu que nous avons de sa vie dans son livre, nous voyons que ça a été un rebelle à son Dieu. Et c'est un peu parfois le comportement de nous chrétiens. Chapitre 1er de Jonas, il nous est dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les passagers, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha, et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu ?» Il répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des armées qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi tu fais cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Et il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'histoire que nous connaissons bien, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, mais il est bon parfois de se rappeler de ce que la parole de Dieu nous dit et de nous remémorer certains textes. Dieu donne un ordre à Jonas, il doit porter un message à la ville de Ninive, car cette ville est particulièrement méchante, vivant dans la débauche et l'immoralité. Et Dieu ne pouvait pas supporter cette situation de la part des Ninivites. Et Dieu demandait à Jonas d'apporter un message, peut-être et sûrement difficile, mais pour le prophète qui vivait normalement dans l'intimité de Dieu, il n'y avait rien de difficile à apporter un message semblable. Et ce message était juste. Dieu voulait que ces gens-là puissent se remettre en question et changer d'attitude et changer de vie. Dieu ne pouvant tolérer le péché, bien entendu. Et le prophète, nous pouvons normalement être qu'être d'accord avec son Dieu, en abondant dans son sens, parce que bon, c'était un prophète de Dieu, et il ne pouvait pas lui non plus accepter de voir un peuple vivre dans l'immoralité. Et voilà que notre Jonas se met à réfléchir. Est-ce qu'il est en accord avec Dieu? Est-ce qu'il est d'accord d'aller vers ce peuple? Et Ninive, quelque part, frères et sœurs, est un peu le reflet de notre société qui vivant dans l'immoralité, la débauche et la dissolution. Nous voyons bien autour de nous que ce que nous appelions mal dans le temps, nous l'appelons bien. Et ce que nous appelions bien, nous l'appelons mal. Le monde a tellement changé. Quand nous voyons comment, dans les conversations qu'on peut avoir à gauche et à droite, et pour ceux qui travaillent encore, quand nous voyons les réflexions de certaines personnes, nous voyons que les gens ne pensent qu'à vivre dans une certaine immoralité, dans la débauche, et ils trouvent tout à fait normal de vivre ainsi et de s'y complaire. Et le même message que Jonas devait transmettre à la population de Ninive, le même message nous est adressé, comme à Jonas. Nous devons, frères et sœurs, transmettre un message d'espérance et de repentance envers notre société vivant sans Dieu, ignorant complètement la volonté de Dieu, tout en sachant bien qu'ils se complaisent dans le mal, ils se complaisent dans l'immoralité. Nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens, pactiser avec le monde. Bien sûr, nous baignons dans ce monde, nous ne pouvons rien faire d'autre, mais nous ne pouvons pas pactiser, ni être d'accord avec la façon de vivre de ce monde. Nous avons un message d'espérance à délivrer à notre monde. Et ce message d'espérance, eh bien, Jonas devait l'apporter. Bien sûr, nous ne le verrons pas aujourd'hui, mais vous connaissez cette histoire. Finalement, Jonas y est allé, et le message qu'il a délivré a porté du fruit. Et notre message que nous apportons à ce monde, eh bien, nous devons espérer qu'il apporte du fruit. Bien sûr, nous ne pouvons pas convertir toute la commune de Blégny ni toute la province de Liège, mais s'il y a un pécheur qui se repent, n'y aura-t-il pas de la joie dans le ciel? Nous ne pouvons pas pactiser avec le monde. Nous ne pouvons pas être en accord avec le monde. Et ce message, nous devons le délivrer. Mais la question que je nous pose, le faisons-nous? Faisons-nous vraiment notre devoir de chrétien d'apporter notre point de vue, notre message d'espérance à ceux qui nous entourent? Oh, bien sûr, non pas nous présentant comme des propres justes. Moi, je suis chrétien évangélique, je suis meilleur que toi. Tu n'es qu'un renégat parce que tu ne crois pas en Dieu. Non, ce n'est pas ainsi que nous devons présenter le message. Notre conduite doit déjà parler pour nous. Notre façon de penser, notre façon de vivre, notre façon de réagir doit déjà être un témoignage, peut-être sans trop de paroles, Mais nous devons vivre autrement, à contre-courant de ce monde. Et comment réagissons-nous, frères et sœurs, face à l'ordre que Dieu nous a donné de partager ce message d'amour? Notre bouche se ferme-t-elle face aux nombreuses injustices dont nous sommes témoins? Notre bouche se ferme-t-elle face à tout ce que nous voyons que ce monde vit dans la corruption et dans la débauche? Si nous regardons la réaction de Jonas, elle n'est nullement dans le sens que Dieu attendait. Jonas se lève. Ah, quelle belle attitude, il se lève à l'appel de Dieu. Malheureusement, il se lève, mais il va dans le sens opposé où Dieu voudrait qu'il aille. Il s'enfuit, loin de la présence de Dieu. C'est un euphémisme. Nous savons que Dieu est partout et que là où Jonas voulait aller, Dieu s'y trouvait. Et si nous ne voulons pas, si nous voulons fuir comme Jonas nos responsabilités, sachons bien que Dieu, un jour ou l'autre, nous retrouvera et nous aurons des comptes à lui rendre. Il va dans le sens opposé. Il fuit ses responsabilités de prophète. Il fuit ses responsabilités de pasteur, de berger, de témoin. Et nous, frères et sœurs, fuyons-nous nos responsabilités? Restons-nous la bouche fermée face au péché de ce monde, face à la salissure? Bien sûr, il est hors de question de réclamer le feu du ciel pour ce monde mauvais. Je ne sais pas comment vous priez pour Poutine. J'espère que nous espérons que nous prions aussi malgré tout que Dieu lui donne un esprit transformé. Mais nous ne devons pas être comme les Jacques et Jean qui voulaient que le feu du ciel descende sur le village qui n'avait pas accueilli Jésus. Non, nous avons apporté un message d'amour. Et ce message d'amour que nous devons apporter se trouve dans l'Évangile. Nous devons, avec beaucoup de respect pour la personne humaine, annoncer le message de délivrance de la part de notre Dieu. Bien sûr, nous ne pouvons pas approuver la vie que les gens mènent, mais nous devons leur démontrer qu'il est possible de changer de comportement, changer de vie en embrassant la foi en Christ. Mais bien souvent, comme Jonas, nous nous taisons, nous dormons, nous nous reposons sur nos lauriers. Trop heureux d'être chrétien, d'avoir rencontré le Seigneur, trop heureux de ne plus être embourbé dans toutes sortes de vices et de péchés. Et malheureusement, nous vivons dans notre petit cocon de chrétiens. Nous n'avons pas envie de nous salir et de nous mêler à ces personnes qui ne connaissent pas Dieu. Nous ne voulons pas salir notre belle robe blanche que le Seigneur nous a confectionnée. Et s'ils vivent dans la débauche, ben, frères et sœurs, on dit parfois, ben, c'est leur problème, hein, c'est leur problème. Que faisons-nous, frères et sœurs, à l'appel de Dieu? Que faisons-nous à cet appel que Dieu nous lance? Il nous a dit, il l'a dit à ses disciples, mais c'est aussi valable pour nous, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà l'appel de Dieu. Voilà l'appel que Jésus avait lancé à son Église naissante. Et l'appel que Jésus nous lance encore aujourd'hui nous appelle à propager la parole de Dieu. Ah, c'est pas simplement dans des grandes campagnes d'évangélisation à la façon de Billy Graham, mais c'est dans notre témoignage de chaque jour, là où le Seigneur nous a placés, soit au travail, soit dans notre voisinage, soit dans n'importe quelle circonstance où nous pouvons être confrontés avec des personnes. Bien sûr, on ne doit pas leur casser les pieds, mais simplement par notre attitude ou par quelques mots bien placés, nous devons leur faire comprendre qu'il y a un message d'amour que nous voulons partager. Jésus a donné cet ordre à ses disciples de sortir de la boue des péchés dans laquelle le monde s'enfonce. Et oui, Jonas, lui, s'est endormi. Et il a fait courir un grand danger aux marins qui étaient sur le bateau. On dit souvent, nous sommes tous sur le même bateau. C'est vrai. Nous sommes tous embarqués dans un bateau qui tangue dans tous les sens. Mais nous pouvons aider Comme l'apôtre Paul a aussi aidé quand ils ont fait naufrage, les marins qui étaient sur ce bateau. Nous pouvons aider à ce que les passagers de ce bateau ne fassent pas naufrage. Et nous pouvons prévenir du danger que le monde encourt s'ils ne se repentent pas. Si nous ne partageons pas le message d'espérance que nous pouvons porter, nous allons amener les gens à la noyade. Et Jonas, en s'endormant, a laissé enfouir le message qu'il devait porter. Si nous nous endormons, frères et sœurs, si nous fuyons nos responsabilités de porteurs d'espérance, nous portons une lourde responsabilité et Dieu nous demandera des comptes. Ce n'est pas des longs discours que nous devons porter, mais une façon de vivre différente. Et nous amènerons les non-chrétiens à nous poser des questions. Bien souvent, les gens nous disent « Mais pourquoi êtes-vous comme ça? Pourquoi faites-vous ceci? Pourquoi êtes-vous différent que nous ?» Ça les interpelle, notre façon de vivre. Et ça, c'est une occasion d'accomplir ce que Dieu nous demande, de partager notre foi. Pouvons-nous entendre le cri de ce monde, nous demandant « Pourquoi dors-tu ? Pourquoi dormons-nous, frères et sœurs ? Pourquoi ne réagissons-nous pas ?» Et les mariniers ont dit à Jonas « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et je crois que vous avez déjà remarqué, quand des gens sont dans la difficulté et qu'ils savent que nous prions, malgré peut-être leur incroyance, ils viennent nous trouver « Prie un peu pour moi parce que je suis malade. Prie un peu pour moi parce que nous sommes dans les difficultés. Prie un peu pour moi parce que mon fils tourne mal. » Oui, frères et sœurs, invoquons notre Dieu. Entendons le cri de ce monde. Le monde crie. L'entendons-nous ? Il veut une solution, une réponse à la situation dramatique dans telle vie. Les conversations que nous avons prouvent que le monde est inquiet et qu'il cherche une solution. Tout ce que nous vivons pour le moment nous le prouve. Tous les bouleversements que nous vivons, qui se présentent sous nos yeux, nous prouvent que le monde est inquiet. Le changement climatique, les gens sont inquiets. Les gens se demandent ce qui va se passer si les eaux montent de 1 mètre ou 2. Des gens vont périr, des gens devront fuir leur pays. Ne parlons pas de la guerre. Nous qui sommes en Europe, nous ne pensions plus vivre sur notre continent européen une guerre. On se dit, nous sommes quand même intelligents, nous sommes évolués. Ceux qui font la guerre, ce sont des barbares. Ce sont des gens qui sont illettrés. Ce sont des gens qui suivent d'autres religions et qui poussent les gens à s'entretuer. Mais les faits nous prouvent le contraire. Des gens qui se disent chrétiens comme nous s'entretuent. Donc les gens sont quand même inquiets. Je crois que si vous avez vu cette semaine à la télévision, ils ont un missile qu'ils ont appelé Satan. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Donc c'est déjà... On voit déjà d'où vient cette arme. Enfin, je veux dire, ces événements qui sont dirigés par qui. Et ils disent qu'en 200 secondes, ils peuvent le lancer et détruire Paris. 209 secondes, ils détruisent Londres. Les gens sont inquiets quand ils voient ça. Bien sûr, la presse fait des choux gras de tout ça pour faire de l'audimat, mais enfin, ça prouve que les gens vivent dans l'inquiétude et qu'ils ne savent plus où se tourner. Nous vivons une crise catastrophique, une crise économique. Tous les jours, on apprend que l'électricité va augmenter. Ah, cette semaine, j'ai eu 2 bonnes nouvelles. Mon abonnement GSM va augmenter suite à la situation. Je ne sais pas pour quelle situation, mais mon abonnement risque d'augmenter. Et puis, mon fournisseur d'électricité m'a envoyé encore un petit mot me disant qu'il va encore réaugmenter ce que je dois payer. Donc, voyez-vous, il n'y a rien de bon qui nous est annoncé. Les gens sont inquiets. Et tous sont sous pression. La manière de voter, je ne fais pas de politique ici, mais nous voyons dans beaucoup de pays, des partis extrémistes viennent au pouvoir. Pourquoi ? Parce que les gens attendent une réponse. Ils attendent une réponse. Si les personnes qui ont été mises pendant des années n'ont pas pu apporter une réponse, on va en chercher d'autres, croyant qu'eux aussi pourraient nous apporter une solution. Bien sûr, il y a toujours des petites solutions qui peuvent être apportées, mais la solution au mal, la solution au péché, ce n'est sûrement pas aucun parti politique qui puisse nous l'apporter. Malgré si nous avons chacun pour notre part une opinion quelconque, nous ne pouvons pas faire confiance aux hommes. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons notre responsabilité de proclamer ce message et de ne pas nous taire comme l'a fait Jonas. Dieu nous envoie apporter la solution, frères et sœurs, à ce monde, car nous connaissons le chemin. Nous connaissons la personne pouvant porter le salut. Que faisons-nous ? Fuyons-nous comme Jonas nos responsabilités ? Fuyons-nous notre mission ? Démissionnons-nous de notre tâche ? Frères et sœurs, ne nous comportons pas comme Jonas. Obéissons à la voix de Dieu. Il y a une belle mission pour chaque chrétien. Voulons-nous l'accomplir ? Faisons face à nos responsabilités ce matin, frères et sœurs. Ne les fuyons pas. Dieu a une mission pour nous. Ne dormons pas, mais veillons, car les temps sont mauvais. Nous n'avons pas le droit de laisser le monde s'enliser de la sorte. Dieu attend de nous que nous obéissions à son appel. Dieu ne nous appelle pas tous à monter sur une tribune et prêcher, mais il nous a donné une mission bien précise à chacun d'entre nous pour apporter un message de délivrance et un message de salut. Dieu attend de nous que nous lui obéissions, que nous obéissions à son appel. Dieu ne nous appelle pas à haranguer les foules. Dieu nous appelle à porter un message d'amour et à distiller ce vraiment un message de repentance. Ninive est devant nous. Allons-nous nous y rendre ou allons-nous nous endormir? C'est la question que je vous laisse ce matin, que nous puissions vraiment réfléchir à la manière dont nous partageons le message de l'Évangile. Prions. Seigneur notre Dieu, tu nous appelles ce matin encore à porter ta parole. Tu nous appelles encore ce matin à annoncer le message de délivrance à ce monde. Seigneur, pardonne-nous si nous avons fermé nos oreilles et nos bouches face aux cris de ce monde. Seigneur, aide-nous à ne pas embêter les gens, mais à leur apporter simplement des paroles d'amour, à vivre d'une façon différente et à les interpeller. Seigneur, bénis ce monde, qu'il puisse trouver la paix, qu'il puisse trouver le salut. Et donne à ton Église la force de délivrer ce message. Amen.